Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour ce nouvel Au fil des pages qui nous permet d'avoir le grand plaisir d'accueillir Anne Salmon qui vient de faire paraître chez La Découverte « La tentation éthique du capitalisme », un ouvrage particulièrement remarqué et, en raison de la crise financière notamment, en pleine actualité. Anne Salmon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette rencontre. Avant de venir au cœur de votre parution, je voudrais brièvement vous présenter à travers quelques éléments de votre parcours. Vous êtes à la fois philosophe et sociologue de formation, universitaire, chercheur, maître de conférences à l'université de Caen et au CEREB. Vous êtes par ailleurs un auteur confirmé. Vous avez publié « Éthique et ordre économique, une entreprise de séduction » en 2002 aux éditions du CNRS, de même qu'une « Responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise » en 2005 aux presses universitaires. Vous faites aussi paraître régulièrement de remarquables chroniques dans la presse nationale. Bref, c'est dire qu'au fil des années, vous êtes affirmé comme l'une des grandes ou l'un des grands spécialistes de ce champ de réflexion qui traite de la voie étroite entre l'éthique et l'économique, selon l'expression de Charles Bedbeder, le président de Poveo. Alors, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je voudrais vous poser une question un peu plus générale qui porte sur le cadre complet de vos recherches et vous demander comment s'inscrit dans ce cadre général le thème particulier de la tentation éthique du capitalisme.
Alors effectivement, on pourrait dire que cet ouvrage s'inscrit comme une étape dans un parcours de recherche qui est assez long maintenant, puisque j'ai commencé à travailler sur ces questions à peu près au début des années 90, c'est-à-dire au moment où finalement les entreprises commençaient à parler d'éthique, c'est-à-dire à affirmer leur dimension éthique, leur capacité à produire des normes, des repères, des valeurs pour les salariés. Alors, le premier travail que j'ai effectué, finalement, c'était de regarder ces documents, ces textes, puisque c'était des textes écrits, et d'essayer de comprendre cette logique, pourquoi tout d'un coup les entreprises affirment cette dimension éthique de l'entreprise. Alors ça, donc c'est une analyse de discours que j'ai fait sur un nombre important d'entreprises, de secteurs très diversifiés, avec une première question, finalement, est-ce que ce n'était pas un phénomène de mode ? Donc il fallait mettre à l'épreuve cet objet.
Et cette mode, elle remonte aux années 90, sensiblement.
Voilà, alors c'est un phénomène qui vient des États-Unis, qui s'est diffusé ensuite très rapidement sur la scène managériale à partir des années 90. Et dont on pouvait vraiment se poser la question, mais est-ce que c'est un phénomène de mode ? Est-ce que c'est ça quelque chose d'important ou pas d'important ? Parce que, évidemment, si c'est un phénomène de mode, ça ne vaut pas le coup de se fatiguer à travailler pendant des années sur un sujet.
On croit comprendre que ce n'est pas un phénomène de mode, alors.
Alors, moi, il me semble que ce n'est pas un phénomène de mode, et ça, pour la bonne raison que les rapports et les liens entre éthique et économie ne datent pas d'aujourd'hui. Et on peut s'apercevoir que dans d'autres moments du capitalisme, à d'autres périodes, il y a eu ces affinités électives entre économie et éthique, notamment, alors moi j'ai essayé de distinguer plusieurs grandes étapes. La première, bien sûr, c'est Weber qui nous l'indique de façon magistrale dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, et qui montre combien, finalement, au démarrage de naissance du capitalisme rationnel moderne, l'impact de l'éthique protestante a eu un rôle très important. Et ensuite, ce que j'ai essayé de montrer, c'est qu'au XIXe siècle, il y avait de nouveau ces affinités entre une éthique progressiste accompagnant cette fois-ci une phase de rationalisation du travail dans la grande industrie. Pour revenir à la période contemporaine, sur l'éthique économique des grandes entreprises, qui me semble accompagner une phase de rationalisation des échanges et des communications. Donc une fois que vous avez finalement éprouvé votre objet, eh bien vous pouvez vous poser la question, et c'est ce que j'ai fait dans la tentation éthique du capitalisme, vous demandez, et les salariés, qu'est-ce qu'ils en pensent ? Ce que vous comprenez, on ne peut pas éprouver cet objet. Ce n'est pas parce que cette éthique est reçue ou pas reçue qu'on va pouvoir considérer que ce n'est pas un phénomène de mode ou que c'est un phénomène de mode. Parce qu'une mode peut être suivie. Et ça, Donc c'est pour ça que la mise en perspective historique me paraissait importante. Alors, par rapport aux historiens, bien évidemment, moi, je ne suis pas historienne.
Donc, ce
n'est pas moi qui vais recueillir. Je vais m'appuyer sur des données historiques que moi, je ne vais pas...
Alors, écoutez, on va en venir maintenant plus directement dans votre parution, qui, comme je disais tout à l'heure, a été particulièrement remarquée. Et en plus, elle bénéficie de l'actualité, puisque la crise financière mondiale l'aide beaucoup dans ce domaine. L'un des grands mérites de votre parution, et bien entendu ce n'est pas le seul, réside dans la juxtaposition d'une approche théorique. En fait, vous revisitez l'économie politique en partant d'Aristote, mais en passant, vous l'avez dit tout à l'heure, par la tradition weberienne et l'époque des Lumières. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous ajoutez à cette approche historique, économique, une enquête de terrain, donc pratique en quelque sorte, dans une très grande entreprise qui a franchi en quelque sorte le Rubicon entre le public et le privé, et dans le sens public-privé. Alors avant de vous poser vraiment la question de l'éthique, je voudrais donner à travers la lecture d'un passage de votre introduction ce qui me paraît être le ton général, le facteur d'ambiance de votre ouvrage, qui est d'ailleurs particulièrement bien écrit. Au siècle des Lumières, c'est en page 5, l'opulence des peuples a été l'une des grandes promesses de l'économie politique naissante. Les Trente Glorieuses ont semblé la réaliser. En effet, cette période a signifié, au moins dans les pays occidentaux, une formidable avancée sociale. Ce modèle a toutefois fait l'objet de controverses, notamment lorsqu'il finissait par assimiler ce bien-être aux strictes possessions matérielles accessibles sur le marché, en ouvrant alors plus directement la société à un idéal consumériste. La fin des Trente Glorieuses a marqué le terme de cet idéal progressiste qui offrait malgré tout la certitude d'une marche vers un avenir meilleur. Il est alors devenu de moins en moins évident que la rationalisation économique et l'accélération inégalée de la production et des échanges des biens marchands soient aussi des vecteurs du progrès social. Alors, l'éthique, vous la définissez comme les moyens de restaurer des rapports, je vous cite, des rapports distendus entre les moyens techniques et économiques et les finalités des sociétés humaines. Alors, peut-être qu'avant d'aller un peu plus dans le détail, vous pourriez clarifier notre vision de ces concepts en nous donnant quelques éléments complémentaires de différenciation entre morale, éthique et accessoirement déontologie.
On peut partir d'une définition assez commune qu'on va retrouver dans les dictionnaires de philosophie. Je pense par exemple au dictionnaire de Lalande. On va pouvoir dire que l'éthique, c'est une branche de la philosophie qui consiste à s'interroger sur quelle est la fin dernière de l'homme, de l'humanité. Quelles sont les fins valables pour... Alors on va pouvoir, dans Aristote, va passer en revue, va dire est-ce que la fin ultime, la fin suprême, c'est la richesse, c'est le bonheur, etc. Donc ça, c'est une réflexion sur les finalités. La morale,
par exemple pour Durkheim, hein, ce sont bien un ensemble de normes, de règles qui existent dans une société donnée. Et ce sont donc des faits, hein, déjà là, des réalisés. Hein, qui font
qu'on peut vivre. Finalité et fait, d'accord.
Voilà.
Et déontologie, c'est un ensemble de...
Ah ben là, ça va être un ensemble de pratiques professionnelles.
Que l'on retrouve d'ailleurs dans différentes...
Alors qu'on retrouve articulé très clairement aujourd'hui hein, dans les textes publiés par les entreprises, diffusés par les entreprises.
Tout à fait. Bon, là, on va pouvoir développer ce point. Revenons à l'émergence de ce questionnement éthique que vous avez un petit peu abordé tout à l'heure dans l'entreprise, qui se situe, on l'a dit, aux alentours des années 90, venant d'Amérine. Alors, selon vous, quels en sont ces ressorts principaux qui ont amené cette apparition de ce que vous avez dit tout à l'heure, qui n'était pas un phénomène de mode. Les ressorts principaux, ça tenait à quoi ? L'évolution de la société
Ah ouais, alors pourquoi cette éthique ?
Et surtout, pourquoi ceci est devenu incontournable pour les entreprises ? Parce que, alors, effectivement, la question peut se poser, mais il peut ne pas y avoir de réponse.
On peut dire qu'il y a trois éléments. Un besoin de légitimation. Besoin de légitimation et de justification hein, dans une phase de dissociation hein, de l'économique et du social. Premier élément. Besoin de mobilisation des salariés sur les objectifs de l'entreprise dans un contexte, hein, dans un climat, on va dire, de difficultés, voire même de souffrance. Hein,
donc redonner du sens
au travail, redonner du sens au travail, de redonner du sens à l'activité. Troisième élément qui aujourd'hui devient de plus en plus marqué, hein, de plus en plus évident, qui est aussi un besoin de contrôle. Lorsque la production et les investissements sont disséminés à l'échelle mondiale.
Et alors c'est quelque chose
besoin de contrôle et de régulation.
D'accord. Et ceci s'est particulièrement senti ou a apparu en particulier dans les entreprises internationales ou est-ce que c'est un mouvement qui était, on va dire, quasi général ? Parce que c'est quand même les premiers réceptacles, ça a quand même été les grandes entreprises internationales qui n'avaient pas une identité, on va dire, un peu morcelée.
Oui. En fait, pour revenir à la façon dont ça a émergé ce mouvement, parce que c'était quelque chose d'assez diffus, hein, quand moi j'ai commencé à travailler sur ces questions-là, d'abord c'était souvent des prises de parole, des prises de position personnelles de grands patrons d'entreprise qui entendaient affirmer hein, cette nécessité d'une éthique des affaires, d'une éthique de l'entreprise plus...
Business éthique.
Plus forte, oui, business éthique. Et on s'est rendu compte que progressivement, ça a été repris par des associations patronales, par le MEDEF, par d'autres organisations patronales, hein, qui ont été aussi porteurs et vecteurs de la promotion de ce type de discours. Et ça n'a pas été les seuls acteurs. Très rapidement, les écoles de commerce, les écoles de management ont repris ces thématiques-là et ont créé des chaires, hein, ont créé des revues.
C'est ça. Donc il y a eu un relais universitaire, pédagogique.
Oui, et des sociétés de conseil aussi ont proposé, pour les cadres dirigeants surtout, hein, des formations. Des ouvrages ont été publiés. Donc, en fait, on a eu progressivement une légitimation. Vous voyez, parole personnelle, puis ensuite progressivement reprise par d'autres acteurs.
Et, ensuite,
et puis aussi, ce qu'il fallait aussi remarquer, c'est que ces discours ont été repris dans l'entreprise, hein, via la communication institutionnelle de l'entreprise, si bien que ça a commencé à s'instituer. Ces discours se sont institués. Et progressivement. C'est-à-dire que de la parole personnel de certains dirigeants, c'est devenu la parole de l'entreprise et intégrée hein, dans une stratégie de communication d'entreprise.
Une autre question est donc justement de savoir comment cette réponse à cette attente, on va dire un peu générale, a été présentée par les entreprises. Alors, il y en a eu de toutes sortes, des pertinentes je suppose et des moins pertinentes. La première de ces réponses, en tout cas celle la plus visible, ce sont les chartes, les codes de déontologie qui sont apparus ici ou là. Alors avec des dimensions qui sont extrêmement différentes, bien entendu, certaines sont des grandes déclarations telles les déclarations des droits de l'homme que personne ne peut contester et d'autres sont de simples extensions du règlement intérieur. Qu'est-ce que vous en dites de ces
Alors,
réponses?
Au départ, on n'avait pas tout à fait des chartes. Ces chartes...
J'ai sauté une étape, alors.
Ouais, en fait, au départ, on avait des textes qui étaient diffusés à travers les journaux d'entreprise, qui pouvaient être...
Des éditoriaux, etc.
Voilà, ouais. Voilà, je me souviens, il y a un salarié qui m'avait donné, d'ailleurs, vraiment, en me disant, surtout, je te donne ça, mais tu ne dis pas, tu ne cites pas l'entreprise, tellement il était... Tellement il était effaré de
Il se sentait menacé.
Non, pas menacé. Je crois qu'il avait honte. Alors, je vais vous dire...
C'est pire que tout, ça, oui.
Oui, il avait honte. Alors, pourquoi? Parce que, bon, là, c'était un journal d'entreprise et il y avait un journaliste d'entreprise qui interviewait le patron. On était dans une SS2I, une petite entreprise, en fait. Et le journaliste d'entreprise demandait au patron, « Toi qui sais tout, peux-tu me dire ce qu'il y a après la mort ?» Et le patron d'entreprise de dire ce qu'il y avait après la mort et de lui dire « Mais tu peux venir aussi au séminaire kabbalistique. » Et on était donc
dans une dérive
complètement invraisemblable. Mais ce qui était intéressant, c'est que... Bon, c'est un exemple... effectivement tout à fait extrême et farfelu. Mais il y avait des éléments qui étaient farfelus. Il y avait des références très ésotériques, mais des références à la philosophie, des références à la religion. Et donc, un bricolage de références multiples, mais toujours décrochées du système complet dans lequel les valeurs ou les normes apprenaient auparavant racine.
Donc certains se sont pris pour des apprentis sorciers. Des gourous, quoi.
Alors, avec cet aspect-là. Bon. Donc, mais ça, c'était effectivement au départ. Et puis ensuite, on s'est rendu compte que ces textes à vocation éthique se sont beaucoup plus structurés, se sont beaucoup plus formalisés et effectivement ont été diffusés donc, de façon systématique, ce que vous avez nommé dans des chartes éthiques, des codes déontologiques,
oui,
qui aujourd'hui prennent une forme assez, il est excessivement difficile, si vous enlevez le nom de l'entreprise, de savoir cette charte appartient à telle entreprise ou à telle autre. Donc, ce sont des textes, d'abord, élaborés de façon systématique, diffusés de façon systématique, formalisés, et un autre aspect de ces textes qui n'existait pas auparavant, on s'aperçoit quand même qu'ils sont plus coercitifs qu'il y a quelques années.
Et ça, c'est une tendance générale ou
Oui, alors oui. Et ça, au départ, faire ce type de recherche, c'était compliqué parce qu'il fallait aller chercher l'information.
Oui.
Vraiment, et ça, c'était difficile.
Et c'était un petit peu confidentiel, effectivement. Les entreprises gardaient jalousement ce thème pour eux à l'intérieur. C'était presque un élément de différenciation dans les entreprises.
Bon, c'était pas si évident que ça. Bon, parce que moi, j'avais été voir Citroën n'en avait pas. Mais maintenant, elles sont diffusées donc de façon systématique sur les sites internet. Donc, faire des recherches maintenant sur les discours éthiques, c'est excessivement facile. Il suffit d'aller sur les sites internet.
Mais on les trouve surtout dans les grandes entreprises quand même. Je suppose que c'est plutôt dans les entreprises du CAC 40
ou
les 250 que dans la PME de base. C'est plutôt ce genre de référence. Écoutez, donc on vient de voir ce qu'était la tentative de proposition ou de réponse des entreprises. Je vous propose qu'ensuite on en vienne à la perception que les salariés en ont, et notamment donc à la deuxième partie de votre ouvrage, puisque c'est une enquête que vous avez menée approfondie auprès des salariés. Je vous propose de voir ce deuxième aspect après une courte pause. À tout à l'heure.
Racisme, eugénisme, utilisation d'embryons. Axel Kahn, généticien, membre de l'Académie des sciences, vous propose, dans une émission Éclairage, une approche à la fois scientifique et philosophique de la nature de l'homme et de la valeur de ses actes. Une émission à télécharger librement sur Canal Académie.
Chère Anne Salmon, si vous voulez bien, nous reprenons donc notre conversation. sur ce magnifique ouvrage dont je rappelle le titre, La tentation éthique du capitalisme, paru à La Découverte, 20 €, 185 pages. Un ouvrage qui a été accueilli particulièrement bien par le grand public et par les spécialistes. Alors, nous disions tout à l'heure que les entreprises avaient apporté leurs propres réponses, mais il faut savoir à qui et comment ceux vers qui ces réponses étaient tournées l'ont ressenti. Alors, il semble qu'il y ait une forme de hiatus entre cette volonté du discours, enfin ce qui traduit le discours, et puis ce que les gens de terrain, les salariés de l'entreprise en perçoivent. Est-ce que j'ai exprimé à peu près votre pensée,
oui,
mais que vous allez progressivement peut-être développer?
Oui,
en tout cas, c'est la question que je vous pose.
Absolument. D'abord, situer cette enquête.
Hein. Oui, je pense que c'est important, oui.
Oui.
Donc, on va dire, on peut dire dans quelle entreprise ou c'est
Bien sûr.
Cette grande entreprise, donc c'était EDF.
Voilà, c'est EDF.
D'accord.
Ce que j'ai dit, hein, c'est qu'au début, les premiers travaux, hein, j'ai été chercher sur énormément d'entreprises.
D'accord.
Et ensuite, je me suis dit, finalement, pour examiner la façon dont les salariés reçoivent ces discours, il est peut-être intéressant de se focaliser sur une entreprise et d'analyser à la fois le discours et puis ensuite de rencontrer les salariés et de faire des interviews pour comprendre ce que les salariés perçoivent.
Alors, je peux vous rappeler ce que vous disiez, hein, c'est dans votre ouvrage, le consensus entre parenthèses, autour des finalités sociales, vole en éclats dès que les acteurs restituent ces valeurs dans le cadre réel de leur travail.
Oui.
Donc, je crois que c'est une phrase qui résume parfaitement,
oui,
votre pensée.
Oui. Non, j'hésite à vous expliquer comment est-ce qu'on a... Les entretiens ont été réalisés pour pouvoir dire
répondre,
une,
ouais,
chose comme ça, ou bien...
Dites.
Alors, cette question de resituer les valeurs ou le discours éthique par rapport à leur travail. Mmh. En fait, il y a plusieurs façons.
En gros, hein,
ouais, exactement. C'est-à-dire que au niveau des entretiens, les entretiens ont démarré sur quelles sont les évolutions que vous avez perçues dans votre travail et quelles sont les évolutions que vous avez perçues dans l'entreprise. Et les salariés, hein, avaient la possibilité de s'exprimer tout à fait longuement sur ces questions. Et puis ensuite, je posais la question, eh bien, voilà, l'entreprise a publié une charte éthique et est-ce que vous pouvez m'en parler
et qu'en pensez-vous?
Et qu'en pensez-vous? Et à ce moment-là, ça permettait, en fait, la structuration de l'entretien permettait véritablement aux gens de resituer les valeurs exprimées, la démarche, dans le cadre de leur travail.
D'accord.
Et c'est pour ça que je dis qu'à ce moment-là, quand ils resituent dans le cadre du travail, c'est excessivement difficile,
bien
et
sûr,
compliqué. Ce n'est pas tout à fait la même chose que de demander quelles sont, comme ça, hein, les valeurs qui pourraient vous représenter. À ce moment-là, on n'a pas cette perception, hein, d'écart.
Oui.
Voilà, donc je voudrais...
L'écart, il se fait effectivement dans les choses concrètes.
Voilà,
le discours,
c'est ça.
Tout le monde adhère, en gros. Hein, mais après, quand on revient dans son atelier ou derrière son bureau, on se dit, mais tout ce que j'ai entendu, ça correspond à quoi? Tout ça, c'est...
Exactement.
Discours, hein, c'est ça.
Et ça,
vous l'avez ressenti tout
fait
dans votre enquête.
Absolument, voilà. Alors, on va... Peut-être dire un peu qu'est-ce qu'ils en pensent.
Oui, mais comment vous interprétez cet écart avant de dire ce qu'ils en pensent? Est-ce que vous pensez que c'est parce que, de façon triviale, on va dire, les dirigeants ont mis la barre trop haute, c'est-à-dire que leurs paroles ont dépassé véritablement leurs pensées, ou tout simplement c'est parce que, du côté de l'écoute, par rapport à ce type de thème, il y a une difficulté? Enfin, je ne sais pas d'ailleurs si c'est une alternative suffisante, mais...
Les salariés ont clairement le sentiment que ça ne reflète plus les rapports sociaux au sein de l'entreprise.
D'accord, donc là, il y a un vrai
schisme. Il y a un vrai problème.
D'accord.
Alors, d'une part, cette distance, hein, qu'ils prennent à l'égard de l'éthique de l'entreprise, il faut souligner qu'elle est commune, à la fois à l'exécution, mais aussi au cadre. Parmi les propos les plus virulents, hein, c'était d'ailleurs l'encadrement,
oui,
c'était le plus critique. Alors, il y a deux façons de concevoir. De grands types de relations à l'éthique. Et les salariés qui considèrent que l'éthique exprime ce qui est dans l'entreprise. Alors, à ce moment-là, quand ils considèrent ça, hein, ils ont le sentiment que l'écart est tellement important que l'éthique relève de l'idéologie et ne correspond pas du tout à la réalité. Et à ce moment-là, on a les propos les plus violents. Maintenant, vous avez une autre façon de concevoir l'éthique d'entreprise. Hein, c'est des salariés qui considèrent que l'éthique n'est pas forcément ce qui est, hein, que les directions, à travers ces textes, n'expriment pas forcément ce qui est.
Être.
Mais voilà, exactement.
C'est
mais
ce
qui devrait être.
Donc, on tend vers quelque chose, on n'y est pas, mais bon, après tout, voilà. c'est un chemin.
Alors, à ce moment-là, l'adhésion va dépendre de la confiance que les salariés ont dans leurs dirigeants.
D'accord. Donc, évidemment, on retrouve le phénomène de confiance qui est très présent dans les actions des hommes. Je lis ce que vous disiez à la page 155. Elle recherche donc ce dénominateur commun érigé en une sorte de blason de l'entreprise et de ses salariés. Toutefois, il n'est pas évident qu'il suffise de bien fabriquer le produit moral au regard de critères purement intellectuels, des valeurs sélectionnées, pour qu'il soit adopté. Cette façon idéaliste de construire un cadre normatif pose d'ailleurs un problème dès que les salariés réfèrent ces idéaux en soi à la réalité des rapports sociaux dans leur entreprise. C'est ce que vous venez de dire et que vous avez écrit de façon merveilleuse. Ce premier constat, très simple, mérite d'être rappelé tant il apparaît récurrent dans les propos des salariés qui opposent immédiatement ce système de valeurs auquel on voudrait qu'ils se plient d'eux-mêmes au nom d'un idéal à préserver, à d'autres pressions qu'ils estiment plus contraignantes, quand bien même elles ne seraient pas désirables en elles-mêmes. Voilà ce qui est dit de façon remarquable.
En fait, on a les directions émettent un discours qui est surplombant. Et c'est ça le problème.
C'est ça. Ils mettent la barre trop haute, moi je disais ça avec mon...
Je ne suis pas complètement convaincue que ce soit ce problème-là qui se pose.
Surplombant, ça veut dire quoi alors ?
Alors surplombant, c'est que, en fait, on constate qu'aujourd'hui, l'organisation du travail, telle qu'elle a été proposée par les directions, et notamment à EDF, a fragilisé les rapports sociaux, a fragilisé les collectifs de travail. Or, c'était dans ces collectifs de travail que se forgeait ce qu'on a appelé l'éthique de service public.
D'accord.
La fragilisation de ces collectifs, notamment à travers l'individualisation croissante, mais aussi la mise en concurrence et en compétition des salariés, mais aussi l'introduction du marché à l'intérieur même de l'entreprise, la pression sur le travail, a donc fragilisé ces collectifs qui étaient le creuset d'une éthique professionnelle vivante.
Mais ce que vous appeliez les règlements d'atelier au 19e siècle, c'était tout à fait autre chose dès lors que le marché était alors, beaucoup moins pesant.
Alors les règlements d'atelier, c'est quelque chose un tout petit peu différent, oui. C'est un tout petit peu différent.
Mais est-ce que c'est l'ancêtre des chartes de déontologie ?
Alors,
qui ont été revisitées par justement les contraintes que vous êtes en train de développer. La personnalisation, la proximité du marché, la concurrence, etc.
En fait, bon, les règlements d'atelier, ce sont des textes que je me suis amusée à analyser en comparaison avec les chartes éthiques contemporaines. Donc, ce sont des textes qui apparaissent à peu près à la fin du XVIIIe siècle, qui se répandent tout au long du XIXe siècle et qui disparaissent, je pense, au début du XXe siècle. Et ce sont des textes qui sont intéressants à comparer parce que ce qui nous paraît évident aujourd'hui dans les chartes éthiques, par exemple, cette idée d'un « nous ensemble » qui est tout le temps au cœur des chartes, hein, c'est nous ensemble, nous qui sommes mus par les mêmes valeurs et qui construisent finalement de nouvelles identités, nouvelles identités collectives, sont bien différentes, correspondent à une mise en scène des rapports sociaux dans l'entreprise, bien différents de ceux qui étaient mis en scène justement dans ces règlements d'atelier qui étaient clairement destinés aux ouvriers et à eux seuls, donc on n'avait pas du tout un nous ensemble, hein. Donc destiné aux ouvriers et à eux seuls, et qui était produit par un patron qui, lui, n'y étaient pas soumis. Donc, par exemple, dans ces règlements d'atelier, vous aviez... Alors, c'était par exemple ne pas chanter, ne pas jouer, ne pas coudre. Alors, fondé uniquement sur les interdits, sous peine de tant de centimes d'amende. Mais aussi, on voit bien que en matière d'identité, l'identité proposée par le patron était tout à fait spéciale. Parce que dire ne pas chanter, ne pas jouer, ne pas sortir furtivement par la porte cochère, c'est quand même indiquer, qualifier que les ouvriers peuvent avoir des conduites qui finalement sont relativement infantiles, voire animales. Alors, c'est aussi, en matière d'identité, dire... que construire finalement l'identité ouvrière comme une sorte de masse irrationnelle en faisant reposer toute la rationalité du côté du patron. En fait, ce qu'il y a dans les règlements d'atelier, c'est vraiment la mise en scène de rapports conflictuels qui est assumé et qui est complètement dénié dans les chartes éthiques à partir du moment où justement vous avez ce « nous » tout à fait étrange, hein, mais qui ne reflète plus du tout les rapports
individuels.
Alors c'est un nous ensemble et en même temps dans lequel ce sont des je personnels qui doivent adhérer. Donc finalement il y a aussi l'idée de faire reposer toute la responsabilité sur des individus, ce qui est quand même assez compliqué là.
Bien, écoutez, on vient de voir que dans votre remarquable ouvrage, on trouve des éclairages qui ne sont pas simplement que philosophiques, qui ne sont pas simplement que sociologiques, ils sont aussi historiques. C'est ce qui fait la richesse de votre ouvrage. Alors, en résumé, vous indiquez que le désir d'éthique est largement dépendant des conditions sociales des salariés, de l'existence de collectifs de travail partageant les mêmes valeurs. Ainsi, la formulation par la direction d'une éthique à laquelle les individus devraient s'identifier n'est ni suffisante pour emporter l'accord et l'adhésion des salariés, ni gage en elle-même de cohésion sociale. Alors, sous forme de conclusion, je voudrais recueillir votre réflexion sur un cadre plus général de la coexistence et de l'interaction entre l'économie, dont le modèle dominant reste le capitalisme, même s'il a été largement ébranlé ces derniers temps. Et donc, on va dire la démocratie, ou la demande de démocratie. Vous soulignez que la responsabilité des entreprises et l'élargissement de ce champ de responsabilité est un levier de l'exigence démocratique. Alors, comment, selon l'expression que vous employez vous-même à la page 174, réenchanter cette économie? Est-ce que vous êtes inquiète ou est-ce que c'est tout simplement un espoir inquiet?
Je pense que la crise actuelle ouvre et va ouvrir de plus en plus le débat autour de la régulation de l'économie et va permettre de discuter de cette forme de régulation privée que proposaient les entreprises au travers de cette éthique. Donc, il va y avoir régulation publique ou régulation privée. Et je pense que le débat est essentiel. Parce qu'il n'est pas du tout sûr que ces régulations privées soient pertinentes. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Et il faut aussi s'interroger sur l'orientation managériale actuelle et notamment lorsqu'elle est destructive des collectifs de travail. Parce que cette destruction-là fragilise en même temps la capacité éthique et l'éthique professionnelle. Et il me semble que de nouveau repensant les modes de management, en repensant cette capacité des collectifs, en recréant du collectif, alors peut-être qu'on va finalement permettre que de ces collectifs émerge, réémerge une éthique professionnelle. Enfin, ce que je crois, c'est que tant que ces collectifs seront fragilisés, une éthique surplombante émanant des directions, quand bien même ça sera des belles valeurs, n'aura aucun effet, aucune efficace. Alors, ce qui pose problème, c'est quand on est dans une entreprise du nucléaire comme EDF.
Oui, on le comprend. Les clauses de conscience devraient pouvoir jouer. Mais vous avez donc là des champs à nouveau de réflexion et de parution. Vous avez d'autres projets de parution?
Alors, le prochain projet C'est un livre qui s'appelle Capitalisme et légitimité qui paraît en mai chez CNRS Édition, donc Capitalisme et légitimité.
D'accord.
Et là, je travaille sur un projet sur une énorme recherche qui ouvre sur d'autres entreprises du secteur de l'énergie et qui s'appelle Éthique et lutte sociale.
Ah, alors ça, c'est un sujet encore plus sensible.
Qui porte en fait sur plutôt la base empirique, ce sont des interviews de syndicalistes de terrain dans le secteur des IEG, donc les industries électriques et gazières, et qui est financé par le Conseil supérieur des CMP d'EDF, donc dans lequel il y a bien évidemment les syndicats qui sont partie prenante.
Bien écoutez, vous nous donnez l'envie de vous réinviter pour ces prochaines parutions. En tout cas, s'agissant de votre dernier ouvrage, La tentation éthique du capitalisme à la découverte, nous avons été pendant tout le temps de cette interview sous le charme et je sais que nos auditeurs auront grand plaisir à découvrir in extenso votre ouvrage. Merci à vous.
Merci beaucoup.